إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبحمد الله سبحانه وتعالى نواصل بعون الله عز وجل دراستنا لشرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب فضل من مات له الولد، باب فضل من مات له الولد. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثني معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة، قال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله تبارك وتعالى كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل notre étude du livre l'explication de l'adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, avec donc l'explication de Cheikh Mohamed Raslan hafidhahullah ta'ala. On est toujours dans le chapitre concernant le mérite ou la récompense de celui qui perd yani un ou des enfants. Donc le hadith numéro ici 150, il dit l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: Ali nous a rapporté. Donc ici Ali, c'est Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala, l'un des mashayikh de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, comme a dit هنا الشيخ وكان جبلا في الحفظ والفهم والنقد للحديث. وقال ايضا الامام احمد رحمه الله: كانما خلقه الله تعالى لهذا الشأن. وقال الامام البخاري عن علي: ما احترقت نفسي في مجلس احد ما احترق. قال البخاري عن علي: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي يعني ابن المديني. Donc ici c'est Ali ibn al-Madini, l'un des mashayikh, encore une fois, de l'imam al-Bukhari. Comme il dit ici le Cheikh Raslan, c'était une montagne de science, bien sûr, une montagne de mémorisation, une montagne de compréhension, et une montagne par rapport yani, à la science du hadith. Donc c'était une personne qui étudiait les chaînes de narration et savait faire yani, la différence entre le hadith sahih, le hadith hassan, le hadith da'if, et ainsi de suite. Il dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il dit à propos de Ali ibn Medini, rahimahullah, il dit c'est comme si Allah jalla wa ala l'avait créé pour cette science. C'est comme si Allah jalla wa ala l'avait créé pour cette science, la science, yani, du hadith. Il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, donc, sur son cheikh Ali, il dit je ne me suis senti petit lors d'une assise de qui que ce soit, sauf lors des assises de Ali, yani ibn al-Madini. Donc on voit ici vraiment le degré de science qu'avait son cheikh Ali ibn al-Madini, rahimahullah ta'ala. Donc il dit ici, Ali nous a rapporté et a dit, Mu'tamir nous a rapporté, Mu'tamir, qui est donc ibn Sulayman, ibn Tarqan al-Taymi, rahimahullah ta'ala. Donc Mu'tamir m'a rapporté et a dit, j'ai lu, قرأت على الفضيل. نعم. Donc الفضيل ici c'est هو ابن ميسرة أبو معاذ. Et il fait partie également des rapporteurs fiables de hadith. Selon أبي حريز. أبي حريز هو قاضي سجستان. Il était le juge de سجستان. Il dit que الحسن, c'est-à-dire الحسن البصري رحمه الله تعالى, lui a rapporté à travers un intermédiaire, il lui a dit que Sa'a ibn Muawiyah, radiallahu anhu, lui a rapporté qu'il avait rencontré donc Abu Dhar, le compagnon Abu Dhar, radiallahu anhu, mutawashihan qirbatan, donc qui portait autour de lui yani, une sorte de vêtement yani, qui était en cuir. Naam. Et il a dit donc, Sa'a ibn Muawiyah, il a dit à Abu Dhar, il a dit, qu'as-tu yani, concernant l'enfant, yani, concernant le fait de perdre un enfant, il y a Abu Dhar, et là il lui dit, vais-je te rapporter cela? Il lui dit, bien sûr. Et là Abu Dhar de répondre, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, il n'y a pas un musulman dont trois de ses enfants décèdent avant d'atteindre la puberté, sans que Allah Jalla wa Ala le fasse entrer au paradis de par la grâce de yani, sa bienveillance envers eux. Et il n'y a pas un homme qui a affranchi un esclave musulman sans qu'Allah Tabarak wa Ta'ala fasse que tous les membres yani, de cet esclave-là soient une cause que les membres de celui qui l'a affranchi, de celui qui a libéré l'esclave à travers ses biens et son argent, soient également affranchis du feu de l'enfer. Donc le hadith, il est authentique, bihamdillah subhanahu wa ta'ala, il a été rapporté également par l'imam Ahmed al-Nasa'i wa Ibn Hibban, rahimahumullah. Ma'an al-kalimat, mutawashihan, ay ja'ala al-qirbata wishahan lahum. والمراد بالقربة ها هنا جلدها أي متوشحا بجلد قربة والقربة ما يصنع من الجلد لحمل الماء فيه نعم طيب donc on va expliquer certains termes ici. Premier terme متوشحا, d'accord, donc concernant Abu Dhar, il était متوشح, c'est-à-dire qu'il avait mis autour de son corps du cuir, voyez, le cuir avec lequel on fait généralement al-qirba. Al-qirba, c'est un récipient en cuir dans lequel on met de l'eau. Donc il avait autour de lui ce cuir-là, yani, qui était porté autour de son corps. Al-qirba, comme on l'a dit, c'est un objet, un genre de récipient fait de cuir permettant de contenir l'eau. ثم الحنث الحنث في الأصل هو الذم أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الذم ويستر فيه الإثم. Donc il dit dans le texte, il n'y a pas un musulman dont trois de ses enfants décèdent avant d'atteindre الحنث. Donc الحنث, c'est à la base c'est un péché. الحنث à la base c'est un péché. Mais ici le sens du hadith, bien sûr, c'est trois enfants qui meurent avant d'atteindre l'âge, justement, de la responsabilité religieuse, le taklif, l'âge de la responsabilité religieuse à laquelle donc leurs péchés seront écrits, ainsi que leur désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc ce qui est voulu, on sait que bien sûr l'enfant, tant qu'il n'est pas pubère, eh bien ses péchés ne sont pas écrits. Alhamdulillah. Wa fikakahum al-fikak ou al-fakak bil-fath wal-kasr, hein? يقال الفكاك وكذلكم الفكاك وهو الخلاص. Dans le terme الفكاك, lorsqu'il dit il n'y a pas un musulman ou quelqu'un, un homme qui affranchit un esclave musulman sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que tous ses membres ou chaque membre qu'il possède sur lui soit épargné du feu de l'enfer pour chaque membre yani, appartenant à l'esclave qu'il a affranchi. Donc le fikak ici, fikak c'est le khalas, yani le fait que la chose elle est épargnée, elle est protégée, elle est sauvée. فهذا الحديث بمعنى الأحاديث المتقدمة في ثبوت أجر من مات له ثلاثة من الولد قبل البلوغ أو اثنان وذلكم الأجر هو أن الله جل وعلا يرحمه فيدخله الجنة بفضله ورحمته ثم بما بذل لأبنائه ذكورا كانوا أم إناثا من التربية الحسنة ومن القيام بالمؤنة وبالرفق بهم وذلك من آثار رحمة الوالد بولده وفي هذا الحديث زيادة أن من أعتق مملوكا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى صار فكاكه من النار يعتق الله كل عضو من المعتق بعضو من الممنون عليه بالعتق. Donc il dit le cheikh, ce hadith, il a le même sens que les hadiths qu'on a vu précédemment dans le même chapitre, concernant donc l'affirmation de la récompense de celui qui a perdu trois des enfants qu'il avait donc avant leur puberté, ou bien deux. Et donc cette récompense, c'est que Allah Jalla wa Ala, yani, lui répande sur lui sa rahma, sa clémence, sa bienveillance, et qu'il le fasse entrer au paradis de par sa grâce et de par sa bienveillance. Et ensuite, par rapport aussi à ce que ses parents ont prodigué à leurs enfants, qu'ils soient garçons ou filles, comme éducation, comme bonne éducation, comme le fait qu'ils aient subvenu à leurs besoins au quotidien, ainsi que la gentillesse et la douceur ou la tendresse dont ils ont fait preuve envers leurs enfants. Et cela donc, bien sûr, fait partie des conséquences de la rahma du père ou de la mère envers son enfant. Donc on a dans ce hadith quelque chose en plus concernant cette fois celui qui a affranchi un esclave, bien sûr, avec l'intention de satisfaire Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, cet acte-là sera pour lui aussi une protection contre le feu de l'enfer, car Allah jalla wa ala va affranchir chaque membre de celui qui a affranchi cet esclave-là, yani par le biais d'un membre de l'esclave qui a été affranchi par sa cause, bihamdillah. Voyez. فالفضل والثواب مخصوصان بالصغير لأن شفقة عليه أعظم ولأن الرحمة له أوفر. Donc ici le mérite, la récompense concerne, dit le Cheikh Raslan, l'enfant, parce que la tendresse envers l'enfant elle est plus grande, et la rahma que l'on éprouve pour l'enfant, hein, elle est plus importante. D'accord. ما يأخذ من الحديث أولا بيان أن الأجر مختص بمن أعتق امرأ مسلما فلا أجر للكافر في عتقه. Maintenant, on tire quoi de ce hadith? Premièrement, l'exposé que la récompense, elle est spécifique à celui qui a affranchi une personne musulmane. Donc, il n'y a pas de récompense à affranchir un mécréant dans son affranchissement. Yani. Donc ça concerne ici la récompense, elle concerne l'affranchissement d'un esclave musulman.
ثانيا بيان أن العتق
من القرب الموجبة للسلامة من النار، وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. Deuxièmement, on trouve ce hadith que l'affranchissement d'un esclave fait partie des choses par lesquelles on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui engendre la protection contre le feu de l'enfer. Et que également le fait d'affranchir un homme est meilleur que d'affranchir une femme. Thalithan fi qawlihi أعتق الله بكل عضو منه إشارة إلى أنه ينبغي ألا يكون في الرقبة نقصان ليحصل استيعاب الجسد كله. Troisième faïda, troisième intérêt scientifique que l'on tire de ce hadith, dans la parole, le fait que Allah Jalla wa Ala affranchit pour chaque membre de l'esclave affranchi un membre de celui qui l'a affranchi. Eh bien, cela nous indique qu'il est important de regarder l'esclave qui est affranchi et de voir yani, qu'il n'a pas de diminution au niveau corporel et physique afin qu'il puisse, yani, celui qui l'a affranchi, afin qu'il puisse recevoir la pleine récompense et que tout son corps yani, soit préservé du feu de l'enfer. Naam. Rabi'an. فضل اعتاق الرقاب ومعلوم أن الرق جاء الإسلام وهو مستتب في رجاء الدنيا وهو لا بد واقع فيها لأن الحروب تدور دائما وأبدا بين الحق والباطل. Quatrième chose, le mérite et la récompense de l'affranchissement des esclaves. Et il est connu donc que lorsque l'islam est arrivé, il faut savoir que l'esclavage était répandu dans les quatre coins du globe. Voyez. Et cela était quelque chose de normal, dans le sens où les guerres étaient très nombreuses. Et il y a toujours eu des guerres entre la vérité et le faux. Voyez. Et donc, on comprend, et vous savez très bien que l'esclavage, donc avant, à l'époque, était le résultat de toutes ces guerres. Voyez. ولهذا قال الشيخ ولا يمكن أن يقال إن أهل الكفر إذا حاربوا أهل الإسلام فكسروهم وهزموهم وأخذوا منهم أسارى أن أهل الإسلام لا يأخذون منهم ما يمكن أن يكون فداء فهذا لا يمكن أن يكون على هذا النحو. Il dit le Cheikh Rassan une chose qui est importante. Il dit, il n'est pas possible qu'on dise que les mécréants, lorsque ils ont fait la guerre contre les musulmans et que donc ils pouvaient qu'ils battent, il se peut qu'ils pouvaient battre les musulmans, et qu'ils gagnent la bataille, ils gagnent la guerre, et forcément donc lorsqu'ils gagnent des guerres, ils vont faire des prisonniers et des captifs, d'accord, et en faire des esclaves chez les kuffars. Et donc on ne peut pas dire que les non-musulmans yani, font cela et que les musulmans n'ont pas le droit, eux, s'ils gagnent des guerres, de prendre yani, des esclaves ou des prisonniers afin de pouvoir justement libérer les esclaves musulmans qui ont été faits prisonniers avant cela. Voyez. Donc forcément, si les mécréants font ça lors des guerres, les musulmans aussi, yani, ont dû avoir recours à ce procédé pour pouvoir justement récupérer également leurs esclaves parmi les musulmans. طيب. وشيء آخر أنكم تأتون بهم في السلاسل والأغلال من أجل أن تدخلوهم الجنة ولكي ينجوا من النار بفضل العلي الغفار. Une autre chose également, il faut savoir que les musulmans, lorsqu'ils avaient des esclaves en leur possession, qui étaient donc des koufars, yani des mécréants, des prisonniers de guerre, des captifs de guerre, eh bien, ils faisaient tout pour les attirer à l'islam et faire qu'ils embrassent l'islam afin qu'ils les amènent avec eux au paradis. Naam. ومع ذلك فإن الإسلام كما هو معلوم ضيق الموارد إلى الرق جدا ووسع المصادر جدا كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل اعتاق الرقاب ومن الذي لا يريد أن يفك الله عز وجل قيده وأن يحل أسره وأن يدخله الجنة مبرئا من كل سوء وعذاب. Et donc avec tout cela, l'islam, comme c'est connu, a restreint de manière très forte l'esclavage et au contraire a élargi l'affranchissement de ces esclaves, a élargi les possibilités, la récompense de l'affranchissement de ces esclaves. Hein? Donc celui qui désire qu'Allah Jalla wa Ala le délivre et l'affranchisse du feu de l'enfer et le fasse entrer au paradis, dénué de tout mal et de tout péché, eh bien, il a intérêt à avoir recours à ce genre de procédé qui est donc l'affranchissement des esclaves, qu'ils soient hommes ou femmes. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. فهذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في الصحيح. Donc on passe au toujours dans le même chapitre, le hadith numéro 151. Il dit à l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Abdullah ibn Abi al-Aswad nous a rapporté. Donc Abdullah ibn Abi al-Aswad, ce rapporteur, fait partie des mashayikh de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et ici son nom, il est affilié à son grand-père, parce qu'en vérité son père ne s'appelle pas Abu al-Aswad, mais il s'appelait Muhammad. Donc sa vraie filiation, en vérité, c'est Abdullah ibn Muhammad ibn Abi al-Aswad. Quoi qu'il en soit, il fait partie des transmetteurs fiables et mémorisateurs de hadith. Puis on a Zakariya ibn Umar al-Ansari, qui est Abu Yahya, et qui a été également affilié à son grand-père. Taïeb, donc Zakariya ibn Umar, Umar, c'est pas son père, mais c'est plutôt son grand-père. Puis on a Abdelaziz ibn Suhaib. Abdelaziz ibn Suhaib, thiqatun, thiqatun, thiqatun. Donc ici, on voit que les savants du hadith, lorsqu'ils répètent trois fois le terme thiqa, 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 eh bien c'est pour dire que le rapporteur a atteint un niveau de fiabilité élevé. Na'am. فمعاني الكلمات قوله ثلاثة أي من الأنفس أو الأطفال من الأنفس أو الأطفال لم يبلغ الحنث أي الحد الذي يكونون فيه مكلفين والحنث الإثم وذم. D'accord. Donc parmi les termes de ce hadith, d'accord, parmi les termes de ce hadith, ici il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui perd trois de ses enfants avant qu'ils atteignent l'hinth, c'est-à-dire la puberté, Allah Jalla wa Ala le fait entrer lui et ses enfants de par la grâce de sa rahma au paradis. Yani, il les fait entrer au paradis. Vous voyez? Donc ici, thalathatun, le nombre, c'est-à-dire trois parmi les individus ou parmi les enfants. D'accord? Thalathatun. لم يبلغ الحنث ils qui n'ont pas atteint الحنث. On a vu tout à l'heure c'est quoi الحنث, c'est-à-dire la limite d'âge à partir de laquelle les enfants deviennent responsables religieusement, hein, deviennent مكلفين, alors qu'on a vu aussi que الحنث à la base c'est le péché, hein, c'est le péché ou la désobéissance. ما يأخذ من الحديث تصريح بإدخال الآباء مع أبنائهم الصغار الجنة. On tire de ce hadith la déclaration claire du fait qu'Allah Jalla wa Ala fera entrer au paradis les parents avec leurs enfants qui sont morts au paradis. Taïeb, avec leurs enfants qui sont morts avant la puberté au paradis. Bihamdillah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-Sheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah, wallazi yadhharu li أنه لا يفهم من هذا أن الأجر محصور في من لم يبلغ الحنث، بل الولد تبقى محبته وعلاقته بوالده وعلاقة والده به وإن كان كبيرا قد بلغ الحنث فله أجره، إلا أن النصوص التي سبق ذكرها خاصة بالذين لم يبلغوا الحنث، أي لم يبلغوا سن التكليف. ومن بلغ سن التكليف من الأبناء ومات فأجر والديه على الله عز وجل، لا يحرمون من الأجر أبدا لعلاقة الوالد بالولد في حال صغره وحال كبره، غير أنه لا اجتماع إلا يعقبه فراق، ولا بد لكل حي في ملكوت السماوات والأرض من الموت والبقاء والدوام لله الحي القيوم الأول الذي ليس لأوليته بداية، والآخر الذي ليس لآخريته نهاية. وصدق الله العظيم القادر الكريم إذ قال قوله عز وجل الحق: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يجي الشيخ يوم في إن شاء الله زيد المدخلي رحمه الله تعالى، il dit ce qui me paraît apparent, c'est que on ne doit pas comprendre ce hadith en croyant que la récompense est limitée seulement aux enfants qui n'ont pas atteint leur puberté. Il dit, en vérité, l'enfant, qu'il soit pubère ou non pubère, il y a encore cet amour-là entre les parents et l'enfant. Hein? Il y a encore ce lien entre le père et son enfant, et le lien entre l'enfant et le père, même s'il est yani, âgé, même s'il est grand ou adulte, et qu'il n'a pas atteint, ou qu'il a atteint plutôt, la puberté. Donc celui qui a perdu un enfant, même s'il est pubère, il dit le cheikh, il a quand même sa récompense. On a vu ça déjà la semaine dernière par rapport au terme yani, ihtasaba, pour ceux qui se rappellent, inshallah ta'ala. On avait dit que celui qui perd même un enfant qui est adulte, eh bien, sa récompense, elle est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, à condition, bien sûr, qu'il patiente en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Même si les textes ici qu'on a mentionnés, yani, sont spécifiques à ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, d'accord? L'âge de la responsabilité religieuse parmi les enfants, taillé. Mais malgré ça, celui qui a perdu un enfant qui a atteint l'âge de la puberté et qui patiente, eh bien sa récompense, il peut l'espérer auprès d'Allah tabarak wa ta'ala et il ne sera pas privé de cette récompense, jamais. Pourquoi? Par rapport à ce lien qui existe toujours malgré tout, même après la puberté, il y a toujours ce lien d'amour, d'affection, de tendresse entre les parents, le père hein, ou la mère et leur enfant. Que ce soit dans la jeunesse, l'enfance de l'enfant, ou après qu'il ait atteint un âge, yani, où il est devenu grand ou adulte. Sauf que, donc comme on a dit, toute personne, qu'elle soit adulte, enfant ou autre, yani, sont réunies. Mais cette réunion, elle aboutira forcément un jour ou l'autre à la séparation, comme il dit le shir, et cela est obligatoire et cela concerne tous les êtres vivants qui vivent yani, dans le royaume des cieux et de la terre parmi les créatures, alors que l'éternité, alors que la pérennité hein, n'appartient qu'à Allah, tabarak wa ta'ala, le vivant qui ne meurt jamais, Al-Qayyum, celui yani, dont toute créature a besoin pour subsister et qui subsiste par lui-même, le premier dont qui n'a pas yani, de début, et le dernier qui n'a pas de fin. Et Allah Jalla wa Ala, il a dit certes la vérité lorsqu'il a dit sa parole dans le sens rapproché, kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose est vouée à la mort, sauf son visage. Kullu man 'alayha fan. Tout sur terre goûtera à la mort. Wa yabqa wajhu rabbik. Et il restera le visage de ton Seigneur, celui qui est plein de grandeur, et plein de noblesse et de générosité absolue. Et celui qui mérite qu'on l'honore et qu'on le vénère. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.